On vous souhaite une excellente journée. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Geoffrey Valtz pour la première communication.
Bonjour à tous. Alors, déjà, je voudrais remercier M. Trubert pour l'invitation. Et alors, pour vous préciser, je suis luthier du Quatuor. Je sais que il y a quelques collègues qui doivent être aussi luthiers pour une guitare ou d'autres. Moi, je m'occupe uniquement des instruments à cordes frottées, donc violon, alto, violoncelle, contrebasse, viol de gambe. Et on s'arrête là. On peut rentrer de temps en temps dans ces catégories-là aussi, tout ce qui est viol à roue, mais c'est généralement une spécificité vraiment un peu à part. La particularité de notre métier, c'est vrai qu'on évolue très très peu. On fabrique encore les violons maintenant comme on les fabriquait il y a 2, 3, 400 ans. Mais au fur et à mesure, la technologie s'immisce dans notre façon de travailler. En fabrication un peu, en restauration beaucoup plus. Alors déjà, l'électricité changeait pas mal de choses. Mais avec l'ère du numérique, ça aussi présente plein de super avantages, beaucoup au niveau restauration et pour la conservation du patrimoine, qui est pour nous une question quotidienne. Pour ma part, du coup, la partie numérique a commencé un peu, c'était pour mon diplôme quand j'ai passé. J'ai fait l'option de modéliser un instrument, alors que j'y connaissais absolument rien en modélisation, juste pour essayer de me différencier aussi de mes collègues. Tout le monde faisait beaucoup de dessins, beaucoup de photos, et je préférais partir sur ce pan-là, par aussi intérêt, parce que je trouvais que ça pouvait être un outil très pratique pour faire de la présentation, surtout pour la soutenance. Je ne savais absolument pas que ça m'amènerait là aujourd'hui, parce qu'au début, c'était vraiment un intérêt purement personnel et juste pour la présentation. Je vais commencer par une petite chose. À l'ère d'aujourd'hui, pour moi, apprendre à modéliser, que ce soit dans l'artisanat ou même pour des enfants, c'est la modélisation, le codage fait partie de notre vie. Et c'est quelque chose qui devrait être appris très tôt, au collège, voire pour le codage, même un peu avant. Il y a beaucoup de facilité pour les enfants à apprendre une langue. Le codage, c'est la même chose. C'est une langue juste informatique. Et si on l'apprenait très tôt à des enfants, même en primaire, je pense que ça serait une très bonne chose pour tout le monde, parce qu'au moins on comprendrait ce qu'on utilise. La majorité des personnes ne savent pas comment fonctionne un ordinateur, comment et pourquoi ça marche comme ça, et à quel point ça peut être très utile, mais on perd aussi, on est déconnecté de ce côté-là. Bon, petit préambule. C'est une des premières réalisations que j'ai fait d'une pièce en fait dont j'avais besoin à l'atelier pour poser un instrument, pour le caler, pour éviter de l'abîmer quand je fais certaines réparations sur l'instrument. Donc j'ai commencé un peu à appréhender l'outil de modélisation. Donc c'est un autre type de modélisation que ce que j'avais fait pour ma présentation pour mon diplôme. Là, c'est un logiciel donc de DAO qu'on appelle paramétrique. Du coup, on rentre des paramètres, des cotes précises, et on dessine à partir de ces cotes-là. Ce qui est très important de garder en fait des dimensions précises. C'est pas contrairement à une modélisation, en fait, ce qu'on appelle du mesh modeling, où ça va être plus lié à de la sculpture, on va dire. Là, il y a vraiment un côté plutôt dessin technique. Je vais passer à la suivante, merci. Donc voilà, les deux photos d'avant, c'était donc les deux premières itérations, et ça, c'est la dernière. Et vous pouvez passer du coup aux photos d'après. Quand vous voyez la pièce finie, donc qui a été imprimée en 3D, et du coup l'utilisation de la pièce donc, qui permet de caler le manche, en l'occurrence d'un violoncelle ou d'une contrebasse, pour éviter déjà que l'instrument vienne taper contre l'établi et s'abîme, et pour caler aussi, garantir que l'instrument soit stable. Donc, voilà, c'est un petit exemple des premières choses que j'ai dessinées et en fait réalisées grâce à l'impression 3D. Donc, l'impression 3D et donc les machines à commande numérique, beaucoup, beaucoup évolué et se sont beaucoup, comment dire, sont devenus beaucoup plus accessibles au prix, techniquement aussi pour l'utilisation. Et c'est, on va dire, 10-15 ans. Donc la CNC existe depuis beaucoup plus longtemps, mais c'était à des tarifs énormes, pas accessibles à des petits artisans. Et depuis 10-15 ans, les tarifs de ces machines-là ont énormément descendu. Je ne parle même pas d'impression 3D où les tarifs des premiers imprimantes 3D étaient juste faramineux, parce qu'effectivement, au début, c'était quand même compliqué. Et il y a tout un mouvement de aussi le open source qui a amené en fait à faire descendre les prix et du coup amené à ce que des petits artisans, des gens qui sont curieux, pas que les artisans-ci, mais à faire en sorte que les prix de ces machines descendent. Et c'est ce qui rend aussi accessible à beaucoup de gens de manière générale et aux artisans comme moi qui sont un peu curieux de nouvelles technologies. Alors au début, moi, l'imprimante que j'ai achetée et montée moi-même, c'était plus de la curiosité parce que je trouvais le principe génial, parce que ça pouvait permettre de faire plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que pour mon travail, ça pouvait avoir un impact important sur comment j'envisageais le temps que je passais à faire certaines choses et de mieux attribuer mon temps aussi dans mon temps d'atelier. Fabriquer une pièce comme ça, la dessiner une fois qu'on connaît, c'est pas très très long. L'impression 3D, une fois qu'on a programmé qu'elle s'imprime, on perd pas de temps. Du coup, je peux moi passer à autre chose, m'occuper des instruments, m'occuper des clients, créer d'autres choses, fabriquer, enfin faire plein d'autres choses. Avant, s'il fallait faire une pièce de ce type-là, ça était extrêmement compliqué de la faire à la main, donc en bois, et c'est tout aurait été fait complètement à la main. Il y a très peu d'entreprises qui fabriquent ça directement. Parce que c'est une niche, il y a très très peu de métiers qui s'en servent. Et l'impression 3D et du coup la modélisation des pièces me permet de voir moins besoin que j'ai moi ou mes collègues dans l'atelier et de répondre à cette problématique qu'on a, nous, pour notre façon de travailler, vraiment personnellement. Ça, c'est un exemple concret de plein de petites choses que j'ai fait. J'ai créé des cales, des contreparties pour faire plein de choses. Alors, on va dire que c'est du plastique, mais c'est quand même réutilisable. Je le conserve dans des endroits, c'est pas si fragile que ça. Donc là, vous voyez, donc j'ai dessiné une tête brute de violon pour faire la fabrication. Et pour éviter le vent, que vous voyez là, je me sers en fait de ce gabarit-là pour repointer directement sur le modèle. Ça permet de varier aussi beaucoup, parce que j'ai à partir de photos, de plans que je scanne, une photo que je fais directement dans l'instrument, je redessine du coup le modèle. Et après, je peux, soit si je veux, le débiter sur la CNC, ou même si je veux continuer à travailler à la main, parce que la machine fait une chose, mais en fait, l'œil et la main, des fois, ont envie de faire autre chose. Et tout l'intérêt, en tout cas, de mon métier, c'est pas forcément avoir un truc qui est parfait, fait comme si c'était une machine, ceci, de travailler le plus précisément possible, mais de rendre aléatoire par un peu la main et par le regard. Et la machine va interpréter certaines tangences de courbes d'une certaine manière que moi, visuellement, je ne ferai pas forcément la même chose. Donc c'est pour ça que je continue quand même à travailler énormément la main, même si je mets quand même beaucoup de machines. C'est la suite. Ça, du coup, c'est un modèle pour faire une couronne d'éclisse. Donc c'est le moule. Les éclisses vont venir être pliées à l'intérieur. Donc la plupart du temps, on utilise un moule qui est dans l'autre sens. C'est qu'on a une pièce centrale qu'on va retirer après. Et on vient plier les éclisses sur le contour. Mais ça présente quelques problèmes si on est souvent interrompu, comme c'est pour moi le cas. Les moules à l'extérieur ont tendance, les couronnes d'éclisses travaillent au plus. Et du coup, ça laisse une certaine. Ça devient aléatoire. Le bois bougeant, quand après je dois travailler sur la suite, le bois travaille un tout petit peu, même s'il est très sec. Là, dans ce cas-là, ça me permet d'avoir une couronne d'église que je peux finir complètement. J'aurai juste les petites finitions extérieures à faire, mais qui va rester dans son boule et ne pas bouger et rester contrainte dans le boule le temps que je puisse faire les parties supérieures ou inférieures. Allez-y. Donc là, vous voyez sur donc les modèles qui ont été imprimés, donc le modèle des I, enfin deux différents modèles, et du coup le traçage sur un instrument. Ce qui est super pratique, ça, c'est génial. Avant, on le faisait à la main, on le coupait à la main dans du plastique ou dans des radios. C'était extrêmement compliqué à faire parce que les radios, il fallait qu'elles soient souples, mais quand c'est très souple, bah, couper avec les outils, ça ne se retravaille pas très facilement, les ciseaux c'est pas très adapté, pas très précis, et on cherche à avoir des formes qui sont quand même très très spécifiques. Et du coup, utiliser, quand j'ai commencé à utiliser l'imprimante 3D pour faire ce genre de choses, c'était absolument génial. Et c'était ma collègue aussi qui travaille avec moi, dire ah mais c'est trop bien de pouvoir faire ça comme ça. On ne perd plus le temps parce que faire un modèle et un bon modèle nous demandait beaucoup de temps. Et là, avec ça, je le dessine, ça me prend 5 minutes à dessiner, je l'imprime, c'est 10 minutes, et ça, c'est d'une finesse. Et ça me permet de pouvoir faire aussi des fois plusieurs itérations. Si je change un peu de modèle, je reprends mon modèle en disant, tiens, ça, je ne vais pas trop, je peux le remodifier. Vous laissez la suite. Donc là, c'est un autre, voilà, un exemple sur un bloc. Donc là, c'est un manche de violoncelle. On cale du coup le modèle sur le bois, ce qui va permettre de tracer et après d'éviter tout le manche. Alors voilà, ça c'est un exemple de dessin pour un chevalet d'une viole de gamme. L'avantage de dessiner aussi moi-même, ça me permet de pouvoir faire beaucoup plus de choses sur mesure que normalement un luthier classique ferait. Pour les chevalets, que ce soit le grand contrebasse ou ça, on a des fournisseurs de chevalets qui nous vendent, alors ils ont plein de modèles différents, mais qui sont standardisés. On a des fois la place de reprendre, mais pas toujours. Et il y a certains instruments qui, par le temps, parce que ça n'a pas toujours été fait dans les standards, on a besoin de faire des choses sur mesure. Ça, c'est un exemple de ça, c'est que j'ai retravaillé. Je suis parti d'un dessin que j'avais, que mon compagnon, mes collègues a fait. Mais on a remodifié pour que ça aille sur l'instrument, parce que les proportions sur l'instrument, le renversement n'était pas bon, le manche était un peu de travers à l'intérieur. Pour compenser tous ces problèmes, plutôt que de démonter complètement l'instrument et le remettre en état, ce qui coûtait extrêmement cher et qui ne valait pas forcément le coup sur l'instrument, on s'est dit que j'ai qu'à faire un chevalet sur mesure pour ça. Le faire par la compagnie Spice qui fabrique les chevalets, ça a été extrêmement onéreux pour nous et pour le client du coup au bout. Je me suis dit, moi j'ai une CNC, je sais dessiner, je vais le faire. Ça ne prend pas tant de temps que ça. Ça m'a permis de faire un chevalet, certes de le vendre un peu plus cher parce que j'ai passé un peu plus de temps qu'un chevalet classique, mais beaucoup moins cher pour le client finalement que si ça avait été vraiment fait soit sur mesure par la compagnie d'origine, soit de carrément démonter l'instrument pour le remettre, ce qui pose aussi d'autres problèmes aussi éthiques, je dirais. Merci. Donc ça, voilà, encore un autre exemple de petit modèle, c'est des courbures pour la forme de la touche d'une viole grande 7 cordes, que j'ai imprimé après. Là, on passe du coup à une autre étape dans l'utilisation de la modélisation. Au début, j'ai surtout fait plein de modèles de contrepartie, mais je me suis dit, quand je me suis intéressé à la CNC, pourquoi pas aussi essayer de fabriquer des instruments. Je n'ai pas été le seul à faire cette remarque-là, de dire que si j'ai une machine à commande numérique dans l'atelier, je peux fabriquer des instruments dits d'atelier, qui sont dégrossis, voire quasi presque finis, en tout cas sur la partie extérieure, à la machine. Avec la machine qui me permet de gagner beaucoup de temps et de le vendre aussi du coup moins cher ou de pouvoir développer des choses qui ne se font pas et d'être obligé de sous-traiter et malheureusement principalement à la Chine, de sous-traiter la fabrication de ce type d'instrument parce que c'est justement le but, c'est d'avoir des instruments qui coûtent aussi moins cher pour rendre accessible certains instruments. Là donc c'est un modèle d'alto que j'ai dessiné avec ma collègue. Donc je les appelle les AFLO-ERGO, c'est pour régler un problème d'ergonomie et de confort sur les altos. Parce que pour que ça sonne, un alto, c'est comme un violon, c'est juste plus grand. Plus grand dit plus lourd et beaucoup moins confortable. Et ça crée aussi des problèmes de santé pour les musiciens. J'ai essayé de compenser en allégeant l'instrument le plus possible, en enlevant aussi les carcans esthétiques du 16 et 17e siècle qui ont codifié les formes du violon. Pour arriver à ce modèle-là, j'ai fait quelques prototypes à la main que j'ai fait essayer à différents musiciens, des professeurs du conservatoire. J'ai désigné ces instruments-là sur des petites tailles pour que les enfants puissent aussi avoir, des très petits enfants puissent avoir des instruments aussi pour apprendre vraiment l'alto, pas apprendre un violon et mettre des cordes alto, ça ne marche pas du tout, et pour qu'ils aient le plaisir de jouer sur un instrument de bonne qualité dès le début. Donc ça, c'est voilà, le dessin, et tout à l'heure, il y aura des photos et des vidéos, des photos de l'utilisation de la machine pour dégrossir ces pièces-là. Donc là, c'est la machine à commande numérique que j'ai dessinée moi-même. Alors ça, c'est, j'aurais pu en acheter une, effectivement, mais j'ai préféré faire le dessin, déjà parce que j'adore dessiner. Non, la conception par ordinateur ou le dessin de manière générale à la main, et je trouve ça vraiment super sympa, c'est très agréable de se mettre sur un papier ou sur l'ordinateur, de commencer à prévoir une pièce, c'est ce qu'on veut. Donc là, j'ai conçu la machine, j'ai un copain ingénieur qui m'a corrigé certaines choses sur des contraintes que la machine devait subir, ou des renforcements que je devais faire, et je l'ai fabriqué moi-même. Je l'ai programmé, alors j'ai acheté tout ce qui est moteur, tout ça, et je l'ai programmé aussi moi-même. Le but aussi, je suis allé assez loin dans cette réalisation, parce que je voulais absolument comprendre la conception de A à Z de la machine pour pouvoir être aussi indépendant dans l'entretien de la machine, qui est une part importante. Et si on comprend, quand on est une grosse entreprise, y a des gens qui sont spécifiquement employés pour ce genre de choses. Dans l'atelier, on est trois, j'ai mon apprenti, ma compagne et moi. Elle n'est pas du tout dans les machines comme ça, c'est pas son. Elle est plus dans la sculpture, des trucs comme ça. Et si on a une machine, si je n'étais pas bien à faire ça, personne n'aurait été capable de s'occuper de la machine. Et c'est quand même problématique. Donc c'est aussi pour ça que moi, intellectuellement, j'avais besoin de faire ça pour dire ok, je sais m'occuper de la machine, je l'ai construite, s'il y a un problème, je sais ce qui ne va pas et je sais comment potentiellement la réparer. C'est la suite. Du coup, voilà, vous voyez, donc là, c'est le creusage d'une table d'alto, du coup, sur les formes d'un dos. Donc, on voit bien après, bon, ça fait beaucoup de poussière. Mais c'est super pratique parce que pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Je fais du bruit, donc je les ai mis dans une pièce particulière. Mais c'est super pratique parce qu'une fois le programme, il va mettre peut-être 2-3 heures pour faire le creusage. Pendant ce temps-là, moi je continue à fabriquer, je m'occupe d'autres parties que je vois finir, par exemple pour cet instrument-là. Là c'est la table, mais il y a le fond, la couronne qui à faire, il y a plein d'autres choses que je peux m'occuper pendant que la machine elle est en train de dégrossir la pièce. Donc c'est super pratique. Et donc là, vous avez deux petites vidéos, je vous laisse regarder, où on voit la machine en fonctionnement. Alors là, pour le coup, c'est une table de viol de gants que j'ai faite à la machine. C'est aussi pour voir un peu comment ça c'est. La machine est quand même relativement grosse. Donc je vous laisse regarder un peu. Hop là, donc elle est passée sur la finition. Quand il y avait des grosses, on voyait des grosses marques. Et après, elle est venue faire des petits allers-retours tranquilles pour lisser en fait la surface.
Donc ça c'est dans la machine que vous avez construite.
Ça c'est la machine, c'est la machine à commande numérique que j'ai fabriquée.
Donc là, une fois que le programme est lancé, elle va exécuter son...
Elle part du coup de la planche brute d'origine que j'ai préparée au préalable. Et après, elle va faire la forme que j'ai dessinée au préalable et programmée après. Ça s'appelle les passes d'outils. Du coup, j'ai programmé la machine pour qu'elle fasse en fait le chemin pour dégrossir le bois. Enfin, c'est encore une autre partie du métier. Enfin, du métier. Bon, en tout cas, le métier de fraiseur, on va dire. C'est c'est assez, assez multiple. Sur la scène, c'est un outil qui est absolument génial et pour tout le monde. Ça a permis de relocaliser la fabrication d'instruments en Europe. Dans les années 1900-1950, en France, au Mirecourt, il y avait une industrie, c'était des usines, mais des usines artisanales. Les gens travaillaient à la main, sauf que il y a une personne qui faisait qu'une étape, une autre personne qui faisait qu'une étape. Ils ont fabriqué énormément d'instruments. Hein. Dans les années 1950, les usines ont commencé à fermer. C'est des industrialisations, enfin voilà, c'est pas que les usines de literie qui ont fermé, il y a eu beaucoup de trucs. Ça a été exporté ailleurs. Ça a été d'abord tous les pays de l'Est, après la Corée et maintenant la Chine. La CNC, même si la Chine continue à fabriquer beaucoup d'instruments, on a, grâce à la machine à commande numérique, il y a pas mal de petites usines qui ont fait revenir une partie de la production en Europe, donc en Pologne, en Allemagne. On n'a pas en France, malheureusement, d'entreprise qui s'est lancée dans ça, justement. Mais on arrive quand même à avoir accès. Du coup, ça veut dire qu'ils utilisent des bois européens, où on a quand même un peu plus de contrôle sur sur comment les bois sont coupés, plutôt que de faire partir des bois d'Europe en Chine, les faire travailler là-bas et revenir. Le coût carbone est quand même assez faramineux. Et c'est de faire ça. Alors ils utilisent aussi leur propre bois, parce qu'ils ont quand même, le pays est tellement grand, ils ont quand même un écosystème qui est similaire sur certaines zones, donc ils ont des bois qui sont similaires. Mais c'est quand même dommage parce qu'on a le bois, le savoir-faire pour pouvoir proposer ce type d'instrument ici. Donc l'étape d'après, donc après l'impression 3D et la CNC, je commence à m'intéresser au scanner 3D. Ça se coupe avec les autres, mais ça présente un avantage pour la restauration qui est absolument génial. Je passe mes journées à me poser, il y a une question d'éthique pour nous. J'ai été élevé dans la literie de dire on doit toujours enlever le minimum de bois d'origine pour ne pas détériorer un instrument. Je me souviens plus, mais c'est en Suède, je crois, où il y a un vieux bateau qui a été restauré régulièrement, qui est dans un musée, et ils ont changé une planche puis une autre, et en fait, l'instrument n'a plus, enfin, le bateau n'a plus rien d'origine, mais est-ce que c'est l'instrument, le bateau d'origine, ou est-ce que c'est un nouvel instrument? Nous, c'est quelque chose qui est énormément important pour nous, parce que ça potentiellement peut faire évoluer le prix de l'instrument. Et quand il y a l'argent qui se met dedans, il y a beaucoup de gens qui essayer d'en profiter, et il y a aussi des gens qui risquent de pâtir de ça. Donc on a toujours cette ligne-là de dire ok, il faut enlever le moins de bois possible. Mais quand on a, dans ces cas-là, voilà, c'est un instrument qui a été mangé par les vers. Vous voyez les deux trous, il y a d'autres photos, il s'est fait plaisir, hein, le ver là-dedans. Et le réparer, déjà cet instrument ne vaut pas forcément le coup. Là je le fais aussi comme test pour le scanner, pour voir la précision du scanner que j'ai là, voir si c'est suffisant ou pas. Voilà. Donc là on a le scanner, donc vous voyez le résultat. Alors, c'est le résultat brut, je n'ai pas encore traité la donnée du scan. J'ai plus le temps. Mais on voit, il y a tous les repères, on voit bien la zone qui a été mangée. On voit aussi la précision du scanner, on voit les lignes d'année, ce qui est quand même assez impressionnant parce que c'est quand même ratissé. Donc au toucher, ça se sent, mais c'est quand même très très léger. Et le scanner arrive à prendre des détails qui est quand même assez faramineux. Après, il faut arriver à bien traiter la donnée, mais c'est pour pouvoir en sortir une pièce. D'où encore le fait qu'il faut savoir manipuler l'outil informatique et la modélisation, parce que ça, c'est la donnée brute de départ. Moi, après, j'ai le traitement des parties qui ne servent à rien. Il va falloir aussi que, de juste une surface comme ça, je puisse faire sortir une pièce en solide pour qu'après, je puisse programmer la CNC pour pouvoir faire la pièce qui va aller dans ce trou-là. Donc voilà, vous voyez, en semaine, du coup, sur les photos, pas forcément très parlant, mais il y a plusieurs galeries, donc il y a une grosse galerie de verre là, il y a un trou là, il y en a plusieurs. Il faut que je découvre, je pense, un peu plus, parce qu'il y a des choses qui sont trop profondes que la CNC ne pourra pas atteindre, il va falloir que je découvre un petit peu plus. Une pièce comme ça, sur un instrument sans un scanner, j'aurais été obligé d'enlever, en fait, à plat ou en cuvette, mais du bord une bonne moitié, voire deux tiers de bois d'origine, jusque au moins ici. Là, je vais pouvoir faire une pièce qui va rester 2-3 mm autour de la galerie et autour de chaque galerie. L'avantage en utilisant le scanner, c'est que je vais pouvoir juste faire les galeries, faire en sorte qu'elles se lient les unes aux autres et que le bout de bois que je vais remplacer va se lier, mais en enlevant le minimum de bois. La machine peut aller dans des trous, faire des trucs hyper précis. C'est que je veux enlever moins de bois et avoir quelque chose de plus solide finalement à la fin, tout en conservant mieux l'instrument. Donc là, vous voyez le scan, on voit bien. On voyait là sur la photo, c'était dans cette zone-là. Il y a des trous, il y en a sur toute la surface. Là, le coin est complètement mangé. Ça va me permettre de réparer ça en un seul coup, une fois que j'aurai tout dégagé, découvert tout. Mais voilà, vraiment, sans le scan, j'aurais mangé, je pense, un bon tiers de la largeur de l'instrument, ce qui est énorme. Un instrument, les dommages que potentiellement ça peut engendrer, parce que c'est plus le même bois, donc même si on fait attention au bois qu'on sélectionne, ça peut imprimer des tensions dans le bois, et il y a plein de choses qui ne sont pas forcément anodines, des choses qu'on ne faisait pas attention maintenant, à l'époque, et grâce au scanner, on est passé à une étape d'après en se disant, ok, grâce à ça, au scanner et à la CNC, on peut encore mieux réparer. Je me rends compte maintenant des choses que j'ai faites quand il y a 10-15 ans, des réparations que j'ai faites. Je me dis, mais avec les connaissances et les techniques qu'on a maintenant, je ne referai plus du tout ça. C'était une folie. Donc la photo d'avant, c'était le scan d'un pareil, d'un trou de verre. Donc là, c'est sur un instrument neuf que j'ai commencé. Et il y a juste cette zone-là, il y a un trou. Je me dis, c'est dommage. Je ne l'ai pas vu quand j'ai ouvert l'instrument. Je l'ai vu qu'après, et quand j'ai commencé à travailler l'instrument, je me dis c'est dommage, je ne vais pas jeter ce bout-là parce qu'il n'y a pas d'autre galerie que ça. Et je me dis je vais la réparer, c'est pas grave, de toute façon c'est traité, il n'y a plus rien dedans. Donc j'ai scanné la pièce, et là, donc on voit la. Du coup, là c'est la pièce brute qui a été fraisée. C'est pour vous dire, ça fait moins d'un centimètre carré. C'est vraiment extrêmement petit. Donc du coup, on voit la pièce que je vais coller en fait à l'emplacement. C'est un petit exemple, mais c'est un bon exemple de manière générale sur l'avantage du scanner et lié à une machine à commande numérique. Et je crois que c'est tout. Pour faire une petite ouverture, aussi, donc le fait que les scanners 3D commencent à se démocratiser aussi, c'est pas encore ça reste encore onéreux pour le moment, mais ça permet aussi de le but après, c'est je commence un peu à travailler avec le musée Lascaris, qui ont une collection d'instruments qui est énorme. C'est la deuxième collection d'instruments de France après la Philharmonie de Paris. C'est conséquent. C'est une des plus grosses collections d'Europe. Je ne sais pas, qui d'entre vous est déjà allé au musée Lascaris ? Ce que vous voyez dans qui est exposé, c'est rien comparé à la centaine d'instruments qu'ils ont en réserve, qui ne sont pas exposés parce que les locaux ne sont pas adaptés. Le Palais Lascaris, c'est un musée national, mais qui est dans un bâtiment qui est classé. Ils ne peuvent pas grandir, ils ne peuvent pas bouger la collection de la Vallée pour le moment, parce qu'il n'y a pas d'espace de toute façon pour faire une autre expo. Le numérique peut être une solution pour pouvoir déjà rendre accessible, parce que le musée Lascaris, on ne peut pas y avoir un fauteuil roulant. On peut monter la première marche, tout le reste du musée, l'exposition de la même des instruments est au premier ou au deuxième étage. Donc ça veut dire pas d'accessibilité pour les personnes handicapées, ce qui est quand même dommage. Et vu que la collection n'est pas exposée, en tout cas dans une très très petite partie, même s'ils font tourner, ils peuvent pour essayer de réorganiser, de montrer le plus de choses possible, il y a quand même une majeure partie des instruments du musée qui ne sont pas exposés. Le numérique peut être un super outil pour vous rendre accessible à la fois visuellement, mais aussi faire sonner pour les instruments qui peuvent l'être, ou en tout cas recréer soit par IA, soit recréer des instruments pour pouvoir, parce qu'il y a certains instruments qui n'existent plus, sauf comme ça, mais ils ne sont plus en état d'être joués, donc potentiellement de recréer des instruments, d'en faire des copies et de faciliter pour pouvoir après jouer ces instruments et essayer de retrouver la sonorité de ces instruments qui malheureusement n'existent plus parce que l'instrument ne fonctionnait peut-être pas très très bien, ne sonnait pas très bien et ne correspondait pas au goût de l'époque, mais c'est un travail qui peut être super intéressant et qui est, enfin, en tout cas moi, pour ma part, ce serait génial que la collection soit scannée. Déjà aussi pour une question de préservation, s'il y a quoi que ce soit, on aura une trace numérique de ces instruments. S'ils se détériorent dans le temps, ben au moins on pourrait avoir une trace de ces instruments un peu plus précise, continuer à faire des recherches, en sachant que c'est quand même compliqué de pouvoir accéder à ces instruments, pour les manipuler aussi. Il n'y a que très peu de personnes, il faut des compétences particulières pour pouvoir avoir accès et à manipuler ces instruments. Donc pour moi, c'est... il y a plein de choses qui font peur avec toutes ces technologies, ça n'effacera pas le métier, et le côté manuel, parce qu'on a besoin de ces connaissances, mais ça peut être aussi une super ouverture vers l'extérieur, et faire connaître des trucs faire connaître des instruments qu'on ne connaissait pas, et essayer de voir comment ça sonnait. Enfin, il y a plein de possibilités. Pour l'éducation, c'est pareil, il y a plein de choses qui peuvent être très très pratiques avec les scanners et l'impression. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je peux passer toute la journée.
Merci beaucoup, Dr. Valls.
Merci à vous.
Merci. On a peut-être une ou deux questions max.
Les viols d'études, elles sont à 4500 et les viols faits du coup par ma compagne professionnelle, on est entre 8-9000 et plusieurs 10 000 en fonction de ce qui peut être fait. Parce que si on demande des sculptures, des bas-reliefs, ça prend plus de temps. Du coup, on fait c'est du coup plus cher pour la fabrication. Mais ça permet d'avoir des viols à 4500 € qui fonctionnent très très bien et qui sont faits dans l'atelier. Par quelqu'un qui sait, ma compagne s'est spécialisée dans tout ce qui est instrument baroque. Du coup, elle a aussi pas mal d'expérience. Moi, je m'occupe que de la partie numérique et voilà, le dégrossissage par la machine.
Bonjour, merci beaucoup, c'est passionnant. Carole Laurenteau, directrice générale de l'ITEM. Donc, on est en contact parce que l'ITEM est un institut de formation au métier de lutherie, guitare, instrument à vent, piano et accordéon. Donc, je suis forcément passionnée par vos propos. Pour rebondir sur quatre points, sur la question de la patrimonialisation et du scan que vous indiquiez pour le musée, nous, on a fait une opération sur l'IA mérovingienne qui dormait dans un musée à Cologne, qu'on a scanné exactement comme vous l'indiquez, qu'on a réussi à faire refabriquer avec les ateliers SCAD en Bretagne. Et depuis, ils ont relancé cette fabrication. À tel point qu'ils ont même fait des kits pour Noël pour les enfants et qu'en fait ils ont été assaillis de succès sur ces kits de lire mérovingienne. Donc pour dire que vous défendez le patrimoine et la diversité instrumentale grâce aussi à ces technologies.
C'est génial,
voilà. Vous dire aussi qu'en fait on vous rejoint complètement sur les questions d'environnement et de rapatriement aussi la fabrication en Europe grâce à ces technologies-là, que c'est pas du tout antinomique du geste. Une petite remarque quand même, parce qu'on participe depuis 2 ans avec l'éducation nationale sur la refonte des CAP en lutherie, et Mirecourt avait refondu son CAP. Nous, l'ITEM, on s'est inscrit pour mettre sur la lutherie guitare qui utilise depuis plus longtemps que le quatuor, effectivement.
La CNC,
parce qu'il y a même des unités de fabrication qui sont revenues en Bretagne aussi, donc il faut le saluer. Mais autant nous, on a affirmé dans le CAP qu'en fait on allait former les futurs luthiers à ces technologies, autant je signale juste qu'il a été fait par le quatuor le choix qu'on allait observer ces machines-là pour ne pas les utiliser. Donc
c'est une grande discussion parmi les
luthiers. Je serais ravie d'en parler avec vous, parce qu'on est persuadé qu'en fait c'est pas c'est vraiment pas contre le patrimoine ou contre le geste, c'est pour aider le geste et pour relocaliser nos productions dans une économie tenable, comme vous le dites, avec des prix qui sont corrects, quoi, qui sont abordables. Et puis peut-être juste vous inviter à regarder, alors c'est vrai que j'y avais pas pensé du tout quand on s'était contacté, mais on a un open lab en fait qui est accessible gratuitement sur le site de l'ITEM, puisqu'on a été financé nous par un mécène, un grand mécène Bettencourt, pour la fondation Bettencourt, pour développer cet open lab, où tous les guitaristes et tous les enfin tous ceux qui sont sur les bénisteries rentrent leurs données voix. Et vous avez tout un tas de pièces qui sont accessibles en 3D, en fait, en libre, puisqu'on a été financé pour ça. Et on peut s'inscrire dans la communauté et participer, récupérer énormément d'informations sur les densités de bois, sur le travail du bois, etc. Donc sachez que vous pouvez participer à cette communauté et qu'elle est libre.